Sur la production écrite, on avait fait un travail équivalent. Et là, je vais peut-être faire quelques propositions un peu plus concrètes. Notre tâche d'évaluation, c'était une tâche d'évaluation qui correspondait au standard un peu d'un CP de fin d'année. On proposait 4 images séquentielles qu'on présentait aux enfants l'une après l'autre et qu'on affichait au tableau de manière linéaire. Ici, là, elles sont... faut faire un petit gauche-droite et haut-bas. Là, elles étaient linéaires, affichées. Et on expliquait que ce qui est peut-être pas très visible ici, c'était une marche. C'est un escalier, il y a une marche. Et donc, le chaton, là, il se casse la figure. Il y avait juste ça pour lever l'ambiguïté sur le dessin. Lorsqu'il était... Normalement, c'est gris... Zut, j'ai mangé le terme... La contre-marche était grisée. Les enfants avaient ça, et ils avaient 15 minutes pour écrire l'histoire à quelqu'un qui ne voyait pas le dessin, qui lirait leur histoire et qui devrait comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc le petit garçon de tout à l'heure, qui écrivait comme vous l'avez vu écrire, il écrit ça, le chat il court, et il tombe, et se fait mal. Sa maman lui dit, « Perds pas petit chaton », et elle l'attrape. D'accord ? Voilà le type d'écrit très moyen qu'on a obtenu. On en a des beaucoup plus sophistiqués et des plus rustiques, mais on peut avoir ça en 15 minutes de manière assez moyenne. J'ai pris une écriture moyenne. Au passage, si ça vous intéresse, vous irez sur le site de Grenoble. Toutes les productions écrites de début d'année, de fin d'année et de CE1, de tous les enfants qui participaient à la recherche et qui étaient dans les académies de l'Est, là, c'est d'ailleurs pas loin d'un millier d'élèves, on a 1000 fois le même texte raconté par 1000 gamins. Tout ça scanné, numérisé, codé, etc. C'est une mine, cette recherche. Donc il y a des collègues qui sont des linguistes de Grenoble qui sont en train de travailler là-dessus. Mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est gratuit, c'est ouvert, vous avez juste à aller vous loguer sur ce site qui s'appelle Scholedit. S-C-O-L-E-D-I-T, ça sera aussi sur votre... Et donc là, vous avez pour l'élève donné, l'élève numéro 63, son écriture en septembre, sa dictée en juin, sa production en fin de CP, sa production en fin de CE1. On a un magnifique corpus longitudinal comme ça, d'écriture d'enfant. Donc, ce qu'on constatait, c'est qu'en gros, oui, la majorité des élèves en fin de CP pouvaient réussir à produire un texte court en 15 minutes... qu'ils arrivaient à segmenter graphiquement leur texte, c'est-à-dire que ce n'était pas une suite ininterrompue de lettres. Ils avaient bien le blanc des mots, même si, vous avez « pleure pas », tout à l'heure, c'était en un seul mot, ce n'était pas en deux. Donc, elle n'est pas forcément parfaite, la segmentation, mais elle est quand même assez bien maîtrisée. Segmentation. Le geste graphique était suffisant pour que l'écriture soit lisible. Ça, c'est cohérent avec l'autre résultat que je vous ai présenté. La maîtrise du décodage, l'encodage était suffisante pour que quand on oralisait, comme je l'ai fait tout à l'heure, on puisse entendre et comprendre le message. Vous l'avez compris, même si orthographiquement il y avait des fautes. Et généralement, les enfants restituaient au moins 3 des 4 informations. Si on considère que dans cette image, ce récit séquentiel, il y avait la fuite, la chute, la détresse et puis la récupération par la maman. Voilà. Donc, on vérifiait qu'il y avait bien 3, au moins, sur 4 de ces informations qui étaient restituées. Donc, ce n'est pas hors de portée de dire « Nos élèves en fin de CP doivent être capables de produire ce type de récit. » Ça devrait même être clairement un des objectifs à viser. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de classes de CP, qui considère que la production écrite, comme ça, elle commence début juin. On l'a vu dans beaucoup de classes. Beaucoup de classes. Celles qui étaient les plus efficaces... Alors, oui, je vous ai mis sur une diapo nos critères d'évaluation. La longueur, la qualité de la segmentation, la lisibilité, les séparateurs d'idées, parce qu'il y avait des majuscules, des retours à la ligne, des points, des choses qui montraient que le récit avançait, la quantité d'informations... par rapport aux images qui étaient proposées, et puis des traces de narration, est-ce qu'il y avait des formules d'ouverture, c'est l'histoire d'eux, il était une fois, des choses comme ça, des reprises pronominales, le petit chat, il, etc., etc. Donc c'est ces critères-là qui nous ont permis d'étalonner les productions écrites des enfants et de vérifier que on avait vraiment quelque chose qui était en cours d'acquisition sur la majuscule et le point, sur l'usage des connecteurs, sur les reprises pronominales et sur l'usage des temps passés, qui étaient à peu près voilà, les acquis attendus dans ce genre de choses en fin de CP, allez, en cours d'acquisition. En cours d'acquisition. Mais il y avait des traces dans une grande majorité des écrits des enfants. À quelles conditions, en gros, à quelles conditions, voilà un peu la checklist, que les maîtres aient fait écrire souvent, régulièrement, sans attendre la fin de l'année, le troisième trimestre, même très peu, voilà. C'est-à-dire que garder cette dynamique de l'école maternelle où ces deux mots sous un dessin, etc., mais cette activité qui était tout à l'heure sous le code E7, hein, encodage autonome, hein, cette activité qui dure 25 minutes en moyenne dans l'année, mais qui pour certains ne commence que très 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 tardivement. Donc il y avait l'idée quand même d'aller plutôt vers des écritures précoces, modestes, sans grande ambition, mais avec cette idée, ça fait partie du jeu d'apprendre à lire et à écrire, c'est d'essayer de tracer toi-même. Dans des tâches évidemment très formatées, très ritualisées, où les règles du jeu sont bien connues des enfants, et où notamment on fait le lien entre les tâches d'activité de type dictée avec celles... Qu'est-ce qu'on a appris que tu peux réutiliser? Quels sont les mots entiers déjà disponibles, parce qu'ils sont dans des affichages, parce qu'ils sont dans des textes ressources de nos textes de lecture? Comment je combine avec des tas de choses que j'ai déjà à ma disposition? Ce qui veut dire que, ça c'est vraiment une partie du travail de ma collègue Bernadette Carvin, il y a un gros boulot dans les classes on va dire, qui sont les plus avancées sur la production écrite pour aider les élèves avant même qu'ils commencent à tracer, à se préparer, à tracer. À se préparer, et je vais peut-être revenir un tout petit peu là-dessus, c'est quoi se préparer à tracer? J'ai commencé à faire la liste. C'est déjà savoir où sont les ressources. C'est savoir sur quoi je peux m'appuyer parce que les mots entiers mémorisés, ils sont là, parce que le texte de lecture dans lequel je peux aller puiser d'autres mots, il est là, parce que les choses que je travaille en dictée et que la maîtresse a dit qu'il fallait maintenant mémoriser, elles sont là. Voilà du matériau à combiner. Mais évidemment, se préparer, c'est pas seulement se préparer à encoder, là, c'était tous mes exemples, c'est se préparer à planifier. C'est qu'est-ce que je vais écrire? Et là, il y a tout un travail de préparation sur à la fois regrouper les idées et commencer à mettre en mots à l'oral. Est-ce qu'on les aide à se chauffer, à s'échauffer, à mettre en bouche quelque chose qui serait une phrase, à essayer de la dire à son copain pour savoir si elle est compréhensible en tant que phrase, pour dissocier un peu cette activité qui est l'activité de fabriquer l'énoncé linguistique et l'activité qui est l'activité de transcrire l'énoncé linguistique. J'y reviens. Mobiliser les ressources disponibles, je l'ai déjà dit. Apprendre à relire, ça c'est fondamental. Et oui, mais cette idée, alors apprendre à relire, l'activité de base, c'est que c'est la maîtresse qui vient et qui dit, avant de faire le moindre commentaire évaluatif, je te lis ce que tu as écrit. C'est-à-dire, je te sonorise ta chaîne écrite. Est-ce que vous faites bien ça systématiquement dès qu'ils écrivent deux mots? Il faut qu'ils aient une image acoustique de ce que ça produit. Ils voulaient écrire Valérie, la maîtresse, elle déchiffre Valérie. Ah, mais non, c'est pas ça. Parce qu'ils peuvent comparer l'image sonore de ce qu'ils voulaient écrire avec l'image sonore que leur renvoie celui qui lit ce qu'ils écrivaient. Eux, quand vous leur dites relisez, ils relisent toujours ce qu'ils voulaient écrire. On est d'accord? Donc, il faut les ramener à un principe de réalité, c'est pas ce que tu voulais écrire, c'est qu'est-ce que ça fait comme bruit, ce que tu as écrit. Ce feedback, il est fondamental. Donc, aussi modeste soit-il sur un mot isolé, très bien, on est au mois de septembre, on n'a pas des ambitions démentes, ok. Mais il a droit à son feedback. C'est-à-dire qu'il a droit à qu'est-ce que ça fait le truc que tu viens d'écrire. Et à partir de là, évidemment, correction orthographique, retour à la norme et Si on commence comme ça, de manière modeste, et qu'on le tient, alors je vous promets qu'au mois de juin, ils produisent des textes. Mais il ne faut pas attendre qu'ils soient grands pour commencer à rédiger. Voilà, en gros. Apprendre à relire son propre écrit, bénéficier de feedback immédiat, j'ai dit ça beaucoup toute l'après-midi. Et évidemment, à ce moment-là, oui, il y a des remarques qui vont apparaître sur le fonctionnement de la langue, sur les accords en genre, etc. Vous n'allez pas faire des leçons de grammaire, mais vous allez être opportuniste, bien sûr. Comment on écrit? Comment on peut faire quand on ne sait pas écrire? Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de demander de l'aide à la maîtresse, je n'ai pas le droit, il y a des ressources. Des règles du jeu, toutes simples, mais qu'elles soient explicitées, ces règles du jeu. Et évidemment, travailler sur le sens de ces textes, à l'écrit comme à l'oral. Je vais redire ça autrement. C'est si on résume au fond, qu'est-ce que c'est que produire un texte? C'est toujours 6 opérations. Prévoir au sens de définir une intention d'écriture, son but et son destinataire. Si j'écris, c'est j'écris quelque chose à quelqu'un. C'est quoi? Est-ce qu'on prend le temps avec les enfants de clarifier ça? Si j'écris, c'est que je veux transmettre des idées. Donc, quelles sont ces idées? Qu'est-ce que j'ai à dire à ce quelqu'un dans ce contexte-là? Ok? Une fois que j'ai les idées, c'est choisir l'énoncé linguistique. C'est avec quels mots je traduis ces idées? Choisir les mots. Une fois que j'ai choisi les mots, c'est comment je transcris cet énoncé oral. Donc, il y a une segmentation de la chaîne orale pour aller vers une chaîne écrite qui suppose d'une conscience des mots avec des blancs graphiques qui correspondront à des choses qui, à l'écrit, sont collées, agglutinées. Le petit garçon, c'est pas le petit garçon. Ça demande un travail de prise de conscience de ces 3 unités sémantiques. Et puis, le travail d'encodage à proprement parler. Petit, ça s'écrit comment ? À la fois sur le plan de la transcription alphabétique et des ajouts orthographiques. Et puis, si on a écrit, c'est pour être lu, alors il y a quelque chose qui se fabrique, qui s'édite, qui se met en page, qui est dactylographié, qui est rendu plus joli, qui est je ne sais pas quoi, ça dépend du message. Et puis, généralement, s'il y avait un destinataire, on regarde si ça a marché. C'est-à-dire s'il répond, s'il est content, si c'était destiné à lui faire plaisir, si ça l'amuse, c'était destiné à le faire rire, etc. Vous êtes d'accord que dans un projet d'écriture, il y a tout ça. Sauf que voilà, ça serait mon hypothèse que je vous soumets, c'est que vous savez tellement que c'est tout ça, et on vous a tellement dit que pour leur apprendre à écrire, il fallait rentrer dans une pédagogie du projet d'écriture, que vous vous sentez obligé de faire tout ça à chaque fois que vous mettez en route un truc qui, dans votre emploi du temps, votre planification, s'appelle production de texte. Et là, vous décidez de terminer un album pour la jeunesse, d'écrire un paragraphe, d'écrire une lettre aux parents ou je ne sais pas trop quoi, et vous avez toutes les caractéristiques de ce que je viens de lister. Il y a un destinataire, il y a une intention. Alors vous avez un peu bidonné, hein, parce que vous leur avez inventé des intentions qu'ils n'avaient pas forcément d'écrire au maire de la commune ou de terminer cette histoire. Ils n'en ressentaient pas un besoin impérieux, mais on a fait comme s'ils avaient tous très très envie d'écrire une autre fin à cette histoire. Et nous voilà partis dans un projet d'écriture où on fait tout ça. Vous y passez 4 semaines, vous en ressortez exsangue et vous dites « plus jamais ça ». Et vous attendez 3 mois de plus pour en refaire une petite couche parce que vous dites quand même sur la production écrite, j'ai pas fait grand-chose. Je galège un tout petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Enfin, en tout cas, il y en a certains d'entre vous qui doivent avoir un peu ce genre de culture professionnelle. Voilà, c'est le moment où on se dit le mieux, c'est l'ennemi du bien. Où on se dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est le moment où on veut tellement bien faire qu'on se met des exigences extrêmes à vouloir tout faire à chaque occasion autour de ce leitmotiv du projet d'écriture. Alors oui, acceptons d'avoir des chantiers qui, certains, aient ce souffle et cette ampleur, et ça peut être très porteur, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, surtout pas. Mais gardons-les pour des moments qui sont des moments d'aventure collective. OK. Et puis à côté de ça, sachons faire simple, sachons faire modeste. Acceptons, par exemple, une pédagogie où... je ne vais pas le dire comme ça. Où certaines de ces étapes sont complètement prises en charge par vous pour que vous puissiez centrer toute leur attention sur une seule de ces étapes. Et si vous mettiez tout sur se mettre d'accord sur l'énoncé, une fois que les idées étaient stabilisées, vous faites un travail oral sur comment on le dirait. Mais c'est fini, le transcrire, c'est vous, ça s'appelle de la dictée à l'adulte, et vous transcrivez. Ils sont dispensés de toute la suite. Mais ils ont beaucoup travaillé sur comment le mettre en mots. Et ça, c'est une compétence importante. À d'autres moments, vous allez mettre le paquet... Je vais le faire comme ça. J'ai mis en rouge. Vous choisissez un autre scénario où l'énoncé, il est déjà déterminé, mais c'est à eux à le transcrire. Et là, on y va. Ça peut être, eux avec vous, vous discutez du projet, de l'intention d'écriture, vous faites tout le boulot, et eux, ils le mettent en forme, ils l'amènent et ils regardent ce que ça donne. En gros, eux, ils prennent en charge les étapes 1 et 2, 5 et 6, et c'est vous qui faites le boulot du 4, du 3 et du 4. J'exagère, je vais un peu loin. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes avec tous les enfants, à tous les moments, sur toutes les activités d'écriture. Et que si vous acceptez cette manière plus simple, pourquoi, c'était ma diapo précédente, pourquoi est-ce que cette dictée à l'adulte, qui est au programme de l'école maternelle depuis 20 ans, on la voit toujours aussi peu? Moi, je pense que c'est pour ça. C'est parce que ce que j'ai décrit, c'est exactement la même chose en maternelle. On charge trop la barque, et du coup, tout le monde en est dégoûté. Et on ne le fait pas. C'est pour ça que je voudrais qu'on aille vers des choses plus modestes, en se disant, oui, apprendre à fabriquer une phrase orale qui, en fait, soit une phrase qui puisse être écrite, donc ça devient une phrase écrite, qu'on oralise, ce qui n'est pas pareil. Oui, ça, ça se dit, mais ça ne s'écrit pas. Ah, voilà une remarque intéressante. Oui. Le bateau, il est grand. Oui, ça, ça se dit, le bateau, il est grand. Mais comment on va l'écrire? On va écrire, le bateau est grand. Parce que cette reprise pronominale, avec le groupe nominal en imposition, c'est vraiment de la syntaxe de l'oral, mais on est en train de travailler sur le passage de la syntaxe de l'écrit. Donc oui, on fait le boulot là. Et puis une fois qu'on a stabilisé cette étape-là, alors, et très clairement, on change d'étape et on est dans le passage de la forme qui maintenant est stabilisée. Et du coup, si la forme est stabilisée, qu'est-ce qui nous empêche de faire des exercices de ça, par exemple, avec des textes que les enfants connaissent par cœur? Une poésie, une comptine. Ils la savent par cœur. Il n'y a plus à négocier, ni sur le prévoir, ni sur le planifier, ni sur l'énoncé. C'est réglé. On rentre dans le « Allez, je vais essayer de l'écrire », parce qu'elle est dans notre oreille, mais on ne l'a jamais vue écrite nulle part, cette petite comptine. Est-ce que ce n'est pas une magnifique activité de production écrite? Vous voyez, on garde la même logique. Les enfants ne sont pas responsables de forcément toute la chaîne. Vous prenez en charge une partie, choisissons la petite comptine, et essayons de la retranscrire. Et dans ce cas-là, ils mettent toute leur attention sur la retranscription. Et là, ils ont besoin de se la répéter, de la découper en mots, de chercher les mots écrits qui vont correspondre aux mots oraux, et de la passer à l'activité d'écriture. Ça va ? J'arrête ça. Il faudrait y passer un stage de formation continue. On est bien d'accord ? Parce que là aussi, c'est un des domaines sur lequel je pense que les savoir-faire ne sont pas également partagés. Il y a vraiment des gens qui sont très forts là-dessus et d'autres qui ne savent pas bien comment faire, si j'en juge par mon expérience. Et là, il y a vraiment un travail de mutualisation de ces scénarios de production. J'ai fait qu'en effleurer quelques-uns, et je m'excuse un peu de le faire aussi de manière aussi triviale, mais au moins si ces deux ou trois idées pouvaient rester, ça peut donner du jeu de manière, encore une fois, modeste et progressive. Il vaut mieux en faire peu, mais bien. que de faire des gros à-coups avec des gros projets. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est la régularité dans l'engagement.